Ok. À table, on peut dire. On va manger. Quelque chose qui est important pour nous de savoir. Je cherche pour mes lunettes, pardon. Que la vie chrétienne, un thème qui est important dans la vie chrétienne, qui est essentiel pour nous. Et nous sommes sur la terre, nous sommes ensemble, et je pose la question, est-ce que l'Église est une Église de dimanche matin? Est-ce que l'Église est une Église juste pour 2 heures le dimanche matin ou 2 heures ou 1 heure de mai, le mercredi soir? Est-ce que notre vie avec Dieu ensemble reste juste dans cette petite bout d'un moment? Ou est-ce que la vie de l'Église est quelque chose qui déborde, qui coule, qui est manifesté dans tous les domaines de notre vie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus est mort pour nous? Et est-ce que cette nom Église, est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que c'est nous en Zoom, ou est-ce que c'est quelque chose de plus que ça? On va aller à un passage, un extrait de la parole de Dieu en Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, 42 à 46. Contexte, début de l'Église, Église naissante, premier siècle, jour de Pentecôte. Actes chapitre 2, 42-46. Donc on va lire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et ils se faisaient beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient les propriétés et les biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce matin, je propose de parler de quelque chose. Peut-être c'est quelque chose connu et expérimenté dans les milieux chrétiens. Mais on ne définit pas des fois la vérité et l'importance de cette doctrine qui est pratique dans nos vies avec des conséquences pour nous. On va parler évidemment de le passage de la communion fraternelle spirituelle du croyant. La communion fraternelle spirituelle du croyant. Et on va parler, on va définir ce que est la communion. Quelle est la communion? Quelles sont les caractéristiques? Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Mais la chose que je vais partager, j'espère que ça va toucher nos cœurs afin qu'on puisse être informé de choses on vit et on peut vivre. Sachant bien sûr, nous sommes dans une saison particulière. Premier point, si on commence à parler de cette communion que nous avons. Une communion est entre des croyants uniquement. Entre des croyants uniquement. Ça, c'est verset 44. Tous qui croyaient étaient dans le même lieu. Ensemble. Unique. Ça veut dire que peut-être c'est un peu dur de dire, voilà, c'est seulement les chrétiens qui peuvent expérimenter cette communion. On dit la vie du corps. Mais sachant quelque chose qui est passé le moment de notre salut, nous sommes maintenant nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Que nous avons reçu un nouvel cœur et un esprit qui est vivant. Ça, c'est dans l'Ézéchiel, je pense, chapitre 37. Si nous avons reçu ça et nous sommes maintenant baptisés en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, dans le corps de Christ, on est mis dans le corps de Christ, chapitre 12, verset 13, nous sommes maintenant complètement une espèce complètement différente. Ça veut dire maintenant on est spirituel et avant on n'était pas spirituel. Maintenant nous avons une place ensemble avec Dieu. Maintenant nous avons une communication, on peut écouter. Nous avons un Père, nous avons un Sauveur. Nous avons un discernement dans la parole de Dieu. Nous avons des appétits différents, raffinés. Nous avons une soif pour la parole de Dieu. Nous avons un désir d'expérimenter ce que Dieu veut donner. Nous voulons voir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et qu'est-ce que Dieu va préparer pour nous maintenant. Notre vocation, notre appel, nos dons. Tous ces éléments pour amener à le fait que maintenant, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Et si quelqu'un vient dans l'assemblée, ils sont toujours bienvenus. Mais de savoir, si quelqu'un n'est pas sauvé, nous n'avons pas la même relation. On peut parler de beaucoup de choses. On peut expérimenter beaucoup de choses ensemble. Mais la réalité, dans une relation entre un croyant et un non-croyant, est qu'un est mort et l'autre est vivant. C'est un peu rude de dire ça. Un qui est en destinée, un qui est en train d'aller, s'il ne choisit pas d'accepter Jésus, dans une direction de séparation éternelle de Dieu. Et l'autre en train d'aller, et Dieu a préparé une place pour vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Quel est le terre en commun entre un croyant et un non-croyant? Quel est le terre en commun? Quel est le point en commun entre quelqu'un qui est sur la puissance de Dieu et ce qui est dans le système du monde, sur le diable? Et de savoir que pour nous, l'Église n'est pas une association. Bien sûr, nous avons le nom association. C'est une entité légale, oui, bien sûr. Mais de savoir, pour Dieu, l'Église n'est pas tout qui dit « je viens à être dans les activités de l'Église ». Ce que seulement ceux qui sont sauvés. Et comme je dis, et je vais répéter, si quelqu'un vient dans l'assemblée qui n'est pas sauvé, quel est le désir? Le but, la dernière ligne est que ceux qui ne sont pas sauvés peuvent voir Jésus-Christ et accepter lui pour sauver et être sauvés. Donc le but est toujours là, que quelqu'un va voir l'amour de Dieu et va expérimenter, être touché par la grâce de Dieu, va dire « Wow ». Qu'est-ce que se passe ici? Je veux ce que ces gens ont parce que je n'ai pas. Et donc, la réalité est d'avoir cette communion ensemble, de discerner les choses. Quand Dieu parle d'avoir cette écoute, est-ce qu'on parle d'autre chose? Oui. Est-ce qu'on est toujours en train de parler de Jésus? Pas nécessairement. Mais on est en train de vivre Jésus. Et donc, la première chose de savoir, et pour nous, cette communion fraternelle est spirituelle. Et si c'est spirituel, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est une église qui invite. Et comme je dis, je vais répéter de nouveau. On veut que ceux qui ne sont pas sauvés et qui cherchent, et ceux qui n'ont aucun espoir, viennent dans l'assemblée, de participer dans un groupe de maison, d'écouter et de finalement comprendre la réalité de l'évangile et d'accepter Jésus pour sauveur. Mais en réalité, la vie de la communauté chrétienne, c'est une vie spirituelle entre les croyants uniquement. Tous les autres vont passer à côté de ça. Certains vont penser que c'est la folie. Certains vont être attirés par l'amour, mais s'ils n'entrent pas dans cette réalité spirituelle, ils ne peuvent jamais comprendre les choses spirituelles. Donc, la communion entre les croyants uniquement. Deuxième chose, c'est une communion de partager. Nous avons un cœur de partager avec des autres. Également, dans le même verset 44 de Actes chapitre 2. Oui, le contexte de ce passage est en fait tous ensemble, 3000 personnes ensemble, à Jérusalem pour la fête juive. Et bien sûr, 3000 sont sauvés et plus après. Et certains, ils ont les biens et certains ne sont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les choses afin que tous peuvent vivre ensemble après cette vie. C'est le début de l'Église. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est le cas dans les autres époques? Peut-être pas. Parce que, bien sûr, il va être toujours les gens qui sont plus riches, ceux qui sont pauvres, certains qui travaillent dans un domaine, certains qui ne travaillent pas. Et bien sûr, on n'est pas là de changer le système social de ce monde, mais de savoir l'application pour nous dans ce principe et cette vie de partager. Mon cœur est ouvert. 2 Corinthiens chapitre 6, Paul dit, « Ô Corinthiens, j'ouvre mon cœur vers vous, ouvrez vos cœurs vers moi, vers nous en fait. » Il a donné avec liberté, avec générosité, il a donné sa vie, il n'a pas demandé l'argent de ses Corinthiens dans cette première épître de Corinthiens. Il a fait tout pour travailler lui-même afin qu'il n'ait aucune expense, aucun dépensement envers les Corinthiens. Lui, il travaille pour lui-même et il partage librement, aucune charge, l'évangile et il enseigne. Il était là. Et donc, de savoir que c'est une vie de partager. On ne parle pas ici, mettre de côté l'idée de l'argent. Et juste voir un dépensement de temps. Combien de temps qu'on passe ensemble, de visiter les autres, de prier pour les autres, d'investir dans les autres, de voir les déceptions de certains qui viennent et partent, certains qui partent et viennent de nouveau, certains qui répondent les conseils et les prières, certains qui approchent. De voir l'investissement quand peut-être les autres ne voient pas. De voir quand on ouvre nos maisons, d'être hospitable, d'accepter les autres, d'être généreux dans notre temps, dans nos prières. Parce que dans le monde, nous n'avons pas ce même concept. Nous pensons que si on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est pour notre profit. On veut quelque chose par retour. Mais de savoir que dans le corps de Christ, on n'a aucune attente vers les autres. On n'est pas là de chercher une réponse, parce que Dieu n'a jamais fait ça. Il n'a pas demandé une réponse, « Ok, je vais venir pour sauver l'humanité, mais je vais attendre pour eux de répondre. » Non, pas de réponse. Le monde n'était pas du tout intéressé. Mais Dieu a fait le premier pas. La belle chose d'une assemblée spirituelle, on parle pas de greater grace, on parle de, en général, les églises qui sont spirituelles et cette générosité. Et je vois ça partout quand je visite des autres églises. Cette cœur généreux, cœur ouvert. Je peux accepter d'ouvrir mon cœur petit par petit. C'est pas quelque chose qui est demandé tout de suite. C'est pas que quelqu'un vient et on veut voir tout ce qu'ils ont vécu, demander un questionnaire de tous les points. Ok, maintenant on va aller chez toi et on va profiter d'être ensemble. Non, on n'est pas comme ça. On laisse les gens être à l'aise et prendre le temps d'être avec nous parce que c'est prendre le temps de faire confiance dans une communauté chrétienne. C'est prendre le temps. Les gens viennent comme ils sont. Ça veut dire avec les douleurs, avec les déceptions, avec les expériences dans les familles. Et ils viennent dans toutes les tailles, toutes les difficultés. Chacun est différent. Et donc, la patience à l'amour afin que chacun, comme une fleur, peut commencer à grandir et ouvrir. Le cœur de Dieu est toujours là et nous, avec patience, seuls les autres, afin que les gens puissent profiter de vivre une vie qui est ouverte vers les autres. C'est le cœur de Dieu pour nous. Ce n'est pas exigé, c'est juste une manifestation si on demeure ensemble. C'est partie de la vie. En Angleterre, je peux honnêtement dire dans ma passé, juste brièvement un témoignage, que j'étais plus intéressé de visiter l'église à Chester, Greater Grace à Chester, quand il y a des repas en commun. C'est intéressant que ma ventre, mon appétit est la chose qui était plus stimulée, on peut dire. Mais de savoir que j'étais touché par la parole, et c'est le même pour nous tous, peut-être nos motivations n'est pas la même tout de suite, mais de voir qu'on voit Christ, et on voit l'amour de Dieu, on voit une transformation dans la vie de chacun, et on dit, on veut ça. C'est une vie de partager, et nous sommes toujours là parce que des autres ont partagé ces vies sans prix, sans demander quelque chose en retour. Et c'est, on a reçu l'amour et on peut donner de nouveau l'amour. Donc le deuxième, une commune de la partage, c'est une vie de partager. Troisième point, en commune, on est en commune avec Christ. Il est présent. Matthieu chapitre 18, verset 20. Et on peut parler également de 1 Samuel chapitre 20, verset 42. Quand deux ou trois sont réunis ensemble, Christ est là. Il dit, je vais être avec vous, au milieu de vous. En 1 Samuel chapitre 20, verset 42, de savoir que David et Jonathan, la dernière fois, il va voir peut-être Saul en train de chasser David. Jonathan a dit, que le Seigneur est entre moi et toi, et entre, bien sûr, vos familles et ma famille. Mais de savoir le principe que il y a toujours une troisième personne dans une relation spirituelle, c'est Jésus-Christ. Et il est avec nous ici aujourd'hui. Il est entre chacun. Le quoi est toujours entre chaque relation. Pour être une relation spirituelle, c'est avec la quoi, c'est avec Jésus. Et donc de savoir également, un peu comme le premier point, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas juste moi et Ibrahim ou Robert ou Paul ou Tullio ou Isabelle ou Pasteur Pierre, etc. C'est Christ dans la relation. Christ va conduire la relation. Christ va aider la relation. Christ va être le troisième fil dans une relation. En Ecclésiaste, ce n'est pas juste les mariages. Cette belle illustration est un fil qui fortifie la relation. Le troisième fil. Le troisième corde. Et donc de savoir, bien sûr, que Christ est présent. Ce n'est pas une association, ce n'est pas juste un groupe de gens. Christ est là. Christ est chez vous. Christ est entre chaque connexion par Zoom. Je vois les visages sur mon écran, mais savoir que Christ est entre nous. Il est là. Et ça, c'est notre espoir. C'est notre libération. C'est quelque chose qui nous amène de changer nos propres idées. Parce que c'est pas juste deux relations, deux personnes qui sont pécheurs, bien sûr, sauvées par la grâce. Mais c'est Christ entre les relations qui change tous. C'est le faire la différence. Christ. Quatrième point. Une communion de la joie, 46, verset 46 de Actes chapitre 2. C'est une joie. Dans sa présence, il y a plénitude de joie, psaume 16, verset 11. Est-ce que dans sa présence, on peut expérimenter la joie? David pose la question. Tu es là, Seigneur. Ton esprit demeure en moi si je suis un croyant de la nouvelle alliance dans cette nouvelle époque avec l'Église de la grâce, avec l'âge de la grâce, avec l'âge de l'Église. Le Saint-Esprit demeure en nous. Si nous pouvons attrister le Saint-Esprit, ça veut dire c'est une normalité d'expérimenter une joie. S'il est triste, c'est parce que ça, c'est pas normal. Ça veut dire, s'il n'est pas triste, on peut expérimenter la joie ensemble. C'est normal. Et bien sûr, l'Église, des fois, on va passer par la tristesse. Quand quelqu'un pleure, les autres membres associés sont identifiés avec ces choses. Mais quand quelqu'un réussit, il a une joie. Les autres peuvent être attachés parce que nous sommes tous attachés comme ma doigt est attaché à ma bras et ma main. Et il y a une connexion. Et si nous avons cette connexion, c'est normal qu'on peut expérimenter cette joie. Contentement, d'être heureux tout le temps? Non, pas nécessairement. Mais cette joie est profonde. Cette joie est une caractéristique du croyant. C'est quelque chose qui amène un témoignage. C'est pourquoi que nous sommes différents du monde. C'est pourquoi que nous sommes la lumière du monde, la sel sur la terre. Parce que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Joie. Cinquième point. Et je vais vite finir. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez? C'est bon? Oui? Super. Merci. Simplicité. Simplicité. C'est simple. Verset 46. J'aime ma femme et aucune manipulation, l'amour de Dieu, l'amour bannit la crainte et l'amour bannit aussi les autres motivations. 1 Jean 4, verset 18, 19, je pense. Et de savoir que si nous avons l'amour de Dieu qui est parfait, qui est transmis, qui est mis en application, qui est pratiqué, que je vais bannir des autres choses. Et je vais avoir une simplicité. Quelqu'un a posé la question à Helmut Kegge une fois. Je pense Helmut, il ne va pas rappeler ce témoignage. Quelqu'un qui a dit sur la route, Vous êtes là en train d'évangéliser parce que le pape ou le Vatican paye ta salaire d'évangéliser. Helmut, est-ce que tu rappelles cette histoire? Oui. Donc en fait, quelqu'un a dit, ouais, votre intérêt de faire ce travail est simplement pour l'argent. Nous sommes plus simples que ça, beaucoup plus simples. On est là pour servir parce qu'on aime de faire ça, parce que Christ a tout touché nos cœurs et ça c'est tout. Nous avons la simplicité en Galates, la simplicité de l'Évangile, la simplicité de Christ. Et ce monde est compliqué avec le mal et le malin, et ça c'est la raison que le monde est confus avec complications. Christ est simple, l'Évangile est simple, notre motivation ce matin est simple, on veut écouter Christ. Si nous sommes là pour les autres raisons, si vous êtes là parce que vous pensez que c'est une obligation de connecter, je veux dire, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas là par obligation. La seule obligation que nous avons est d'aimer les autres. Ça, c'est la seule obligation. C'est le plus grand commandement, en fait. On aime Dieu avec tout notre propre, tout notre cœur, tout notre âme, tout notre être. Et on aime notre voisin comme nous aimons nous-mêmes. Donc, de savoir, c'est très simple. Et je vais terminer ce point parce que je veux finir dans un instant. Mais de savoir, c'est simple. On est là parce qu'on aime Dieu. On est un peuple qui prie. On est un peuple qui veut voir le monde changer âme par âme, personne par personne. Et dernier point, je vais finir avec ça. La parole de Dieu est toujours ouverte. Versets 42 et 46. On peut voir ça en Néhémie chapitre 8, que le peuple cherche pour la parole de Dieu être ouverte. Et Esdras, ils ont demandé à Esdras de prêcher et enseigner la parole. Bien sûr, verset 4, il ouvre le pupitre, dans le pupitre, il a commencé de prêcher, il ouvre la parole. Il a ouvert la parole devant les yeux de tout le monde. Application, une assemblée, une communauté, une communion fraternelle, la parole est toujours ouverte. Est-ce qu'on toujours cite les versets, on parle toujours des versets bibliques? Non. Mais la parole est toujours ouverte pour toucher, pour encourager, pour édifier. On est là parce que nous sommes le peuple de ce livre. On est le peuple de la Bible. Les juifs et les chrétiens, selon l'avis de les musulmans, nous sommes le peuple de ce livre. Et donc le livre est ouvert. C'est précieux. C'est quelque chose comme jamais en fait. C'est précieux ce livre. Et donc de finir, il y a des raisons pourquoi que nous sommes ensemble. Et il y a des caractéristiques de cette communion qui changent les vies pour l'éternité. C'est une œuvre magnifique. Un jour, on va être devant Christ et on va voir ce qui a passé aujourd'hui et toutes ces années. Et on va voir tout ce que nous avons expérimenté. Ce n'était pas en vain. C'était pour la gloire de Dieu et pour le salut de ceux qui disent de l'humanité, oui, je veux Jésus-Christ, je veux avoir une assurance dans ma vie, je veux avoir un but. Nous sommes là pour ça. Donc, sachant, ce change tout, ce n'est pas une petite chose, c'est éternel. Donc, continuons, persévérons dans ces jours difficiles et savoir Dieu est avec nous. Il est une grande joie. Et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse.